Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode des Afters de la Transformation, nous avons l'immense chance de recevoir un athlète slash entrepreneur, Enoch Effa, bonjour.
Bonjour.
Enoch, tu es triple champion du monde de boxe française, également fondateur du groupe Nokefa, qui propose du coaching sur mesure destiné aux leaders d'entreprise. Enoch, tu t'es retiré des rings depuis un petit moment déjà. Tu diriges des salles de sport, enfin tu dirigeais des salles de sport et tu donnes des conférences en entreprise et je crois même que tu as pour projet d'ouvrir une école d'entrepreneuriat par le sport. Déjà, d'où vient toute cette volonté? Comment tu arrives à passer de l'idée au concret?
Alors, tout simplement parce que dès le départ, pour moi, le sport, ça servait à entreprendre ma vie. J'ai jamais été passionné de boxe ni de sport en tant que tel. Donc pour moi, c'était un outil pour entreprendre ma vie, pour devenir meilleur. Pour j'avais un peu des comme référence des mangas japonais, Dragon Ball Z, avec un personnage qui m'intriguait beaucoup. Il cherchait juste à être meilleur et à servir au monde. Et pour ça, bah, il se servait d'entraînement. Et s'il y avait de l'adversité en face de lui qui pouvait menacer ça, bah, il était là.
Non, mais t'es devenu triple champion du monde de boxe française, d'accord?
Oui.
Juste à la force de ta volonté, parce que c'était pas une passion.
Non, c'était pas du tout une passion. C'était juste parce qu'il fallait que je trouve un moyen de m'améliorer, de changer ma situation sociale. Et à l'époque aussi, j'avais un défi, c'est qu'il fallait sortir des services sociaux. Et si possible, d'embarquer ma fratrie dans ma dynamique. Donc, on m'a dit que je pouvais rentrer à l'INSEP. Faire un système de sport-études, que du coup, ça répondait aux critères que je m'étais fixé. Tu utilises le sport pour pouvoir devenir quelqu'un et t'insérer dans la société.
Alors, c'est vrai que ça a dû t'aider de faire 1m93, parce que les gens ne te voient pas, d'ailleurs, en t'écoutant. Mais tu fais 1m93, t'es quand même un grand, costaud. J'imagine que pour être champion du monde de boxe française, poids lourd, ça aide.
Bah, à l'époque, non, j'avais pas du tout de pronostic. Statistiquement, c'était pas du tout, à l'aube de ses 18 ans, c'était pas du tout dit que j'allais devenir champion du monde. En plus de ça, je ressemblais pas du tout à ça. À l'époque, on m'appelait Choupa, sucette. Je ressemblais à une Choupa Choups, une sucette au coca. Et les pronostics des coachs que je rencontrais, c'était que bah, il fallait pas que je fasse ce sport-là, surtout pas pour devenir champion du monde.
Donc, mais alors, ça a dû être hyper dur de rester convaincu que tu pouvais y arriver, justement, avec des profs qui te disaient, enfin, avec des profs, des coachs qui te disaient, bah, non, mais il fera jamais rien dans ce sport, quoi.
C'est là où on en revient au côté entrepreneuriat, c'est-à-dire j'avais ma vision qui m'a été inspirée par ma mère et aussi par mon père, et à chaque fois dans leur parcours, ils ont été là où on les attendait pas, ne serait-ce qu'arriver en France en venant d'un pays anglophone, ne serait-ce que s'alphabétiser dans une langue qui est pas du tout la leur, donc ça a été vraiment le parcours dans lequel j'ai baigné de manière indirecte, donc du coup ça a pas dû être facile, mais c'était pas la facilité qu'on cherchait.
J'imagine que tu étais en entraînement tous les jours, que tu devais faire au moins 605 entre 5 et 8 heures de sport par jour. Au bout d'un moment, on n'en a pas marre. On se dit pas, oui, si, j'ai si. Juste envie d'aller me reposer, quoi.
Si, si, mais en fait, ça fait partie du lot. Concrètement, comme je faisais ça dans un autre but, je savais quel était le prix à payer. Je l'avais mesuré. Et je m'étais fixé 5 ans pour devenir champion du monde. 5 ans pour devenir champion du monde, diplômé et, si possible, bah, d'avoir une action qui ait un impact. Donc, c'est pour ça que j'ai monté mon association dès mes 20 ans. Donc, c'était 2 entraînements par jour. Ça fait en moyenne 25 heures d'entraînement par semaine minimum. Plus le fait d'aller en cours. Donc, j'ai eu la chance à l'époque d'entrer dans un groupe qui s'appelle le groupe IGS, qui m'a permis de faire un BTS en alternance. Et c'était le seul groupe qui avait accepté ce projet. Et aujourd'hui, c'est le groupe qui m'accueille pour mon projet de folie aussi. Et du coup, bah, y a des moments où on en a marre, mais on sait c'est quoi le prix à payer parce que derrière, il y a une vision.
On va parler de comment tu as opéré un peu la transition de ta carrière sportive à celle d'entrepreneur, parce que c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Mais comment tu raccroches les gants et tu te dis, ben moi, voilà, je sais ce que je veux faire, j'ai envie d'aider les autres.
Bah en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on se dit même pas qu'on va aider les autres, on se dit on va incarner quelque chose. Et finalement, on se rend compte que ça aide. C'est pour ça que quand je pars en entreprise ou que je m'adresse à d'autres personnes, quand je m'adresse à un public, notamment là, j'ai un public spécial leader au féminin, je leur dis d'abord, tu prends rendez-vous avec toi-même. Tu incarnes la chose parce que mieux qu'un conseil, il y a ce que tu inspires. Donc du coup, ça a été ma nourriture de me dire que le fait d'être moi-même, d'être apprécié ou pas du tout apprécié, détesté.
Les gens ont un avis sur toi.
Ils ont un avis, voilà. Ça laisse pas indifférent. C'est
non,
clair que
c'est
quand
ça.
On croise quelqu'un qui, à 21 ans, tu dis je vais entreprendre et je vais être champion du monde et en même temps, bah, je sais que ça va créer de l'impact parce que je veux faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent entreprendre à leur tour ou trouver un travail en mobilisant des décideurs.
On a dû te prendre pour un fou, hein.
Oui. Et là, j'ai compris que c'était un compliment. T'es bizarre, t'es fou, t'es chelou.
T'es arrogant.
J'ai compris que c'était un compliment pour celles et ceux qui aimaient rester dans les standards, guidés par la peur.
T'as bien raison. Aujourd'hui, t'es chef d'entreprise, donc écrivain aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment fonctionne ton entreprise ou ton association ?
D'accord, mon entreprise, elle fonctionne ainsi. J'ai tout réorganisé post-Covid quand je me suis posé la question, ça sert à quoi ce que tu fais, tu veux vraiment quoi ? Donc j'ai décidé de rejoindre un groupe qui me permet de faire limite de l'intrapreneuriat, qui s'appelle encore le groupe IGS 20 ans après, et qui me permet aujourd'hui de développer en fait la partie centre de formation avec pour ambition d'ouvrir des campus post-bac, mais à partir de l'Afrique, avec une touche française. Donc ça, c'est top. Et en parallèle à ça, du coup, j'interviens dans des entreprises pour aller chercher des leaders à impact. Donc des personnes qui me disent, voilà, la performance, on connaît, mais on voudrait rajouter la touche sens pour avoir de l'impact. Et quand j'interviens auprès d'eux, c'est sous forme de conférences ou de formations, et du coup, qui se terminent par vraiment des plans d'action concrets. Et des fois, on monte même des programmes sous forme de learning expedition où j'utilise des parallèles entre le ring de boxe et le ring de l'entreprise. Et après, ces personnes-là, j'en identifie parmi elles. J'ai deux programmes par an où on va chercher des 18-30 ans qui cherchent à monter leur boîte en 6 mois ou 1 an et on se monte un groupe et du coup on a des leaders à impact qui rencontrent des jeunes de 18-30 ans issus de toutes les Frances et on célèbre au bout de 6 mois ou au bout d'un an des personnes qui ont monté leur boîte ou qui ont trouvé une formation.
Combien de personnes aujourd'hui t'as aidé justement à monter des entreprises ?
J'ai commencé à compter à partir de 2014.
C'est déjà pas mal.
Alors j'ai commencé en 2007-2008. mais je comptais pas, je faisais vraiment ça parce que j'aimais.
Mais bien sûr.
Je pense qu'on doit être au moins à 500 minimum.
Ouais, c'est énorme.
Parce que j'ai compté les groupes.
Et ça doit t'apporter énormément parce que j'imagine que tu as des retours d'expérience de ces personnes-là qui reviennent vers toi en te disant merci de nous avoir aidés.
Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent assez ingrat et ça vient souvent à retardement. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avec une intention autre que la performance ou du résultat ou du chiffre.
Ou aider les autres. Enfin, c'est vraiment pour aider les autres et c'est vraiment faut sortir de soi. C'est pas on le fait pas que pour soi.
On le fait pas que pour soi. Mais par contre, il faut le faire par soi. C'est-à-dire que faut pas se mentir à soi-même. Et moi, je suis pas l'abbé Pierre. Je suis pas aussi noble que lui. C'est limite égoïste. Moi, je fais partie de ces personnes qui se posent la question pas comment bien vivre, mais comment bien mourir. J'ai eu la chance d'être rappelé dans mon parcours de vie sur le fait que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et j'aimerais, entre guillemets, mourir en me disant que j'ai contribué à quelque chose. Donc, c'est très égoïste au départ. Maintenant, c'est égoïste, mais maintenant, j'ai un malin plaisir à voir les gens se révéler, se relever et voir des potentiels se révéler à la française. Parce que avant, en tout cas, dans ma tranche d'âge dans laquelle j'étais, le rêve était associé à américain. Et quand tu parcours la France avec un sport comme la savate boxe française, tu découvres que tu as un merveilleux pays et que tu peux aussi rêver à la française. Mais pas la France que issue des quartiers, issue aussi de zones rurales, de zones aussi privilégiées, parce que aujourd'hui, la quête de sens, c'est quelque chose qui traverse les âges.
Qui traverse les âges, qui traverse les régions. On n'est pas obligé d'être parisien pour réussir. On peut venir
exactement.
De n'importe où, en fait.
Exactement. Et là, j'ai des parcours, vraiment des illustrations vraiment concrètes. Je parle de gens, exemple, issus de la ville d'Anceny, du comté d'Anceny. Je sais pas si...
Personne ne sait où c'est.
Personne ne sait où c'est. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a des parcours d'exception qui ont pu émerger de ces programmes.
Mais bien sûr. Donc, on va reparler un peu de tes motivations parce que je pense que ça intéresse un petit peu les gens. Et moi, ça m'intéresse quand même vachement de me dire comment on a ces motivations qui te poussent à t'engager dans une vie entrepreneuriale aussi forte que la tienne. Tu le savais depuis... Toujours finalement que le sport c'était pas une fin en soi, que tu voulais déjà être chef d'entreprise.
Oui, en fait, chef d'entreprise, je savais que je voulais entreprendre. Je voulais grandir en valeur. C'est-à-dire que, à partir d'un moment, je pensais que ma vie pouvait être meilleure et qu'il fallait donc que je sois meilleur. Ça, c'est ce que ma mère m'a laissé comme héritage. Elle m'a toujours dit, si tu veux que les choses soient meilleures, deviens meilleur. Point barre. Donc ça, c'est plutôt entreprendre. Entreprendre, c'est pas forcément être chef d'entreprise, déjà.
Non, je suis d'accord.
Mais c'est grandir en valeur et ensuite créer de la valeur. Je pense que c'est, dans une société, on a la chance d'être dans un pays qui aide. Mais je pense que être aidé, ça revient aussi de l'autre côté à se poser la question comment je crée de la valeur. Et l'une des manières la plus concrète de créer de la valeur, ça a été de voir comment structurer ça sous forme d'association et d'entreprise. Donc c'est comme ça en fait que c'est né. C'est comment je peux grandir en valeur, devenir quelqu'un, la personne à laquelle j'aspire. Et ensuite, comment je peux créer de la valeur? Maintenant, créer de la valeur, pourquoi? Si c'est juste de la performance, pour l'avoir vécu en sport, et je peux vous le dire, c'est déprimant, voire frustrant de se retrouver avec son trophée, sa ceinture, et se dire « and so what ?»
Ça doit être horrible.
C'est super horrible, et c'est pour ça que les athlètes de haut niveau ont ce sujet-là, et qui est le même sujet que de beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de décideurs, de se dire « ok, on a performé, à part me demander encore une autre performance, and so what ?» Et c'est pour ça que je me suis demandé en gros à quoi ça peut servir. Et quand on voit qu'il y a des répercussions à travers la transmission qui vont au-delà du fait d'avoir peur de perdre, parce que quand vous êtes dans le partage de richesses, vous avez peur de perdre. Mais quand vous êtes dans le partage de savoir et dans le partage de ce que vous êtes, ça peut que se décupler. Et ben là, vous commencez à rentrer dans un cercle, entre guillemets, qualifié de vertueux, et tu t'es que dans ce schéma-là. Comment je peux grandir pour faire grandir?
On va continuer là-dedans. J'aimerais comprendre quelles sont les compétences que tu as acquises dans le sport qui t'ont permis justement d'entreprendre, d'être ce que tu es aujourd'hui.
Alors, je vais le dire en vrac, de manière non préparée.
Non conventionnelle.
Un, c'est déjà de cultiver sa singularité. Je fais partie de cette génération qui ont eu peut-être comme dilemme d'avoir à choisir entre son pays d'origine et le pays dans lequel tu es né. Voilà, moi je suis français d'origine ghanéenne et j'ai compris qu'il n'y avait pas de dilemme entre les deux. C'est comme
tu
si j'avais
très
un père
bien vivre avec les deux.
Avec les deux, voilà. Donc conjuguer sa singularité, c'est ce qui m'a permis de me dire, bah tiens, comment je fais pour sortir du lot sur un ring, pour devenir champion. Et à l'époque, je rigolais, je disais, je voulais être un champion beau gosse. Je n'aurais pas le nez à côté de l'oreille. Je voudrais qu'à la fin de ma carrière, on se dise pas, bah ah, ça se voit qu'il a fait de la boxe.
Mais ça se voit pas.
Ah bah merci beaucoup. Donc c'était ça, cultiver sa singularité, de trouver un moyen d'agir par rapport à ses besoins et pas par rapport à ses envies, de se dire, bah voilà, je suis capable de pas céder juste à mes addictions, parce que j'en avais. Et ça m'a bien forgé. De me dire que si le contexte était challengeant, la seule chose qui est permanente aujourd'hui, c'est le changement. Donc ça veut dire que je suis en train d'avancer. Donc de s'adapter au changement comme une opportunité de me révéler. Quoi d'autre encore? Juste d'apprendre à respirer, d'être là. Parce que sur un round de boxe, tu comptes pas tes secondes, tu fais en sorte que chaque seconde compte. Et ça, quand tu l'adaptes au ring de l'entreprise,
Mais c'est un peu la même chose.
Voilà,
finalement.
Dans le ring de l'entreprise, c'est pareil. Je suis en réunion, mon portable est retourné, je suis là. Je suis en famille, pareil. Donc c'est toutes ces notions et ces compétences transférables que j'ai pu avoir sur le ring, que j'ai pu transférer et qui m'aident aujourd'hui à communiquer avec des décideurs et d'autres personnes.
Finalement, c'est être là au moment présent.
D'être là, d'être au moment présent et d'accepter d'être en mouvement, mais surtout d'accepter d'être avant de chercher à faire ou à chercher à avoir le résultat. Souvent dans des entreprises, on est à la quête de plus de résultats.
Sans savoir ce qui est.
C'est ça. Sans savoir ce qui est et en sachant que le mieux ramène du plus, la quête du mieux ramène du plus, alors que la quête du plus ne ramène pas forcément du mieux.
Ça, c'est très, très juste. Parlons un peu résilience, parce que quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés dans ton parcours entrepreneurial, justement, après?
Alors, j'ai fait ça en parallèle de ma carrière d'athlète de haut niveau. Mmh. Alors, la première chose, ça a été de pouvoir faire en sorte que les autres acceptent que la singularité, c'est pas un handicap. Donc, pour une première expérience où je devais lever des fonds, j'ai dû faire 20 banques, 18 refus. Et l'une des choses qu'on me rétorquait, c'était, bon, soit vous n'avez pas le bon profil, soit, bah, si vous êtes sportif, est-ce que vous pouvez vous associer avec des personnes qui ont un background plus gestion? Et j'avais beau leur dire, bah, j'ai ma licence en management et en gestion, je sors de l'ESSEC, de le parcours entrepreneuriat social et solidaire, ça ne suffisait pas. Et donc, par rapport à ça, après, pour quelqu'un comme moi, pour qui il n'existe pas le non, quand tu as une vision, il n'y a pas de non, il n'y a que des challenges, je revenais toujours en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit un oui? Et je comprenais en fait qu'il fallait que j'améliore peut-être la présentation de mon business plan, la manière de pitcher.
Ouais, mais c'est hyper démotivant quelque part. Comment tu tiens le coup?
Comment tu tiens le coup? Bah, tu t'entoures de personnes qui ont réussi et qui sont passées par là. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, les parcours d'exception se trouvent autour de nous. C'est pas forcément des chefs d'entreprise, hein. Des fois, c'est la personne, je sais pas, moi, ma mère m'inspire, mon père m'inspire, les proches. Et elles ont toutes eu affaire au même type d'épreuve sur le fond. Toutes les personnes qui sont arrivées à faire la différence ont eu à un moment donné des choses que certains appellent des problèmes pour celles et ceux qui se sont arrêtés. Et pour celles et ceux qui ont continué, ils ont transformé ces problèmes en challenge. Donc, c'est d'aller se connecter à ses frères et sœurs de valeur, et pas ses frères et sœurs de couleur, d'aller se connecter à elles pour essayer de voir en fait quels ont été les leviers et de pouvoir voir comment toi, ça peut être un levier pour toi.
Dis-moi, quel conseil tu donnerais à d'autres sportifs souhaitant devenir entrepreneur comme toi?
Bah, c'est de leur dire qu'en fait, s'ils sont sportifs, ils sont forcément entrepreneurs. C'est comme être femme et entreprendre, c'est un pléonasme. En fait, c'est d'abord être. Donc, cultive en fait un état d'esprit et ne vois pas juste la performance. C'est un process, c'est un mindset. Et arrête de te définir à travers ton sport ou à travers ton métier. Définis-toi à travers un socle de valeurs et des visions auxquelles tu aspires. Et tu verras que tu pourras vraiment passer du sport à l'entrepreneuriat de manière très, très, très fluide.
Tu as voulu grandir et mûrir avec ça dans ton parcours de vie, mais c'est des mots qu'on n'avait pas encore à l'époque.
Oui.
Je pense qu'avec le Covid, on en a beaucoup plus parlé, la quête de sens, ce besoin justement de se trouver, d'avoir un socle de valeurs. Avant, ça n'existait pas, les mots n'étaient pas dits. Tu y as pensé avant tout le monde quelque part?
Bah, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque, mais à l'époque, on me le disait sous des termes comme cela, t'es perché. Voilà, t'es
perché. Mais donc c'est pas positif, t'es perché ou t'es complètement fou.
Mais en fait, il y a pas à ce que les choses ne doivent pas être positives ou négatives. C'est que l'énergie et tout ce qui est positif ou négatif, c'est l'indifférence qui est compliquée. Donc que ce soit négatif ou positif, toi c'est une énergie. C'est comme toute entreprise aujourd'hui se doit d'avoir une FAQ. On sait que ce que quelqu'un va appeler une critique. Toi,
FAQ,
tu sais que
c'est foire aux questions.
Foire aux questions. Tu sais que toi, sur ces retours d'expérience qui peuvent être qualifiés de négatives, c'est un retour d'expérience qui va te permettre d'améliorer l'expérience que tu veux créer auprès du public auquel tu destines tes offres de services ou de produits. Donc, dans tous les cas, moi, je ne l'ai pas pris comme tel parce qu'il y avait une vision et je savais quel était le prix à payer. Aujourd'hui, j'ai mon championnat du monde qui consiste à restructurer mon entreprise pour amener des milliers de personnes à avoir plus d'impact. Je sais très bien que c'est perché en utilisant en plus l'art de la boxe. Oui, mais comment tu peux t'adresser à une dynamique collective avec un sport individuel? Alors, tu dois expliquer que dans chaque entreprise, chaque maillon est important.
Il faut que chaque maillon soit fort pour justement coexister.
Pour coexister. Donc, le chemin qu'il y a entre le collectif, l'individuel et l'individuel et collectif, c'est exactement le même. À partir d'un moment, ça doit être chapeauté par une vision et comment tu fais adhérer chaque individu. Donc, je suis encore à ce stade-là dans mon nouveau champ.
Ce que je trouve dingue, c'est que ça paraît très simple quand tu le dis, ça paraît évident que les gens n'aient pas pris cette conscience, n'aient pas cette conscience avant, en fait.
C'est comme tout, hein. C'est comme tout. En fait, je pense que la chose la plus complexe, c'est de faire des choses simples. Aujourd'hui, des fois, on se fait des nœuds. C'est comme quand tu passes tes concours pour devenir prof de PS. Au lieu de dire ballon, on te dit objet circonférentiel rebondissant.
Circulaire, ouais.
Je sais plus ce qu'on dit pour dire un ballon, quoi. Donc, des fois, ça fait du bien à l'ego de dire ça, de dire voilà, très cher, t'as des courbatures. Ah oui, t'as de l'acide lactique. Bon, t'as des courbatures. Donc moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir...
Apprends un chat, quoi.
Voilà. Et ça a été mon métier, ça a été ma passion, de se dire, mais comment on simplifie ces choses-là? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin de simplicité, de revenir à l'essentiel.
Ton livre, 12 rondes pour exister au-delà des échecs, aux éditions Erol. Alors là, je vais te poser une question, c'est les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs pour justement se remettre en selle quand tu as eu des échecs?
Bon, en fait, c'est de se dire que ce mot échec, c'est une vraie arnaque. Il devrait ne même pas exister. C'est un jeu, l'échec, c'est un jeu d'échecs. c'est qu'à partir d'un moment, en fait, et je vous parle en tant que personne qui, de l'extérieur, si on voit mon parcours, faire face au deuil, à la trahison, à l'abandon, à des abus ou à des choses comme ça, ben, en fait, on se rend compte que ce sont des leviers.
Donc c'est de faire de ce qui t'est arrivé de négatif dans ta vie quelque chose de positif.
Oui, c'est négatif pour les autres souvent, mais pour toi ça peut être une énergie, juste une énergie.
Ah mais bien sûr, ça peut t'apporter énormément finalement.
C'est de faire de toutes ces choses-là de quoi te questionner sur ta vision et te dire mais si elle t'arrive à toi, si tu as un problème, c'est que c'est toi la solution. Sinon ça ne t'arriverait pas à toi, tout simplement. Donc voilà, dans ce livre-là, quel conseil je peux donner, c'est de rester en mouvement, pareil, de se poser des questions au lieu de faire des affirmations, et notamment des questions sur des choses simples. Je contribue à, quelle est ma vision, quelle est ma mission, avant d'arriver au faire, concrètement, d'être dans l'être et de relier ça à une vision concrète. Si ce n'est pas clair au niveau de ta vision, si tu n'as pas une destination claire, ton voyage il sera dans tous les cas inconfortable.
Qu'est-ce que pourraient te souhaiter les acteurs de la transformation dans les prochaines années?
C'est qu'on reste connectés pour être des acteurs concrets de la transformation, parce qu'aujourd'hui... Les mots comme transformation, métamorphose,
changement,
ce sont des mots avec lesquels il va falloir vraiment conjuguer. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris.
Eh ben, tant pis pour eux.
Voilà.
Merci beaucoup, Enoch Effa, d'avoir partagé avec nous ton parcours plus qu'inspirant. Là,
merci
faut le
beaucoup,
dire.
En tout cas. Merci
au nom
vous.
Des afters de la transformation, je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochains challenges. Vraiment. Merci à vous toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des afters de la transformation sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt.
À très bientôt.
Les afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcasts.